Cette année, on constate que deux genres cartonnent au cinéma. Le film familial et le film d'horreur. Nous allons voir si le nouveau Evil Dead rentre dans cette catégorie des succès horrifiques. Salut à tous, c'est Vin sur Plot Time. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film Evil Dead Burn. J'espère bien qu'il a des burns sur Evil Dead Burn. Allez hop, le calembour a été placé, c'est bon. Il s'agit d'un film américain réalisé par un certain Sébastien Vanicek qui avait réalisé Vermine que je n'ai pas vu et je sais, c'est une erreur de ma part. Nous sommes déjà sur le sixième film de la franchise Evil Dead créé par Sam Raimi et pour le coup, je les ai tous vus. J'avais même fait une vidéo sur Evil Dead Rise que j'avais trouvé assez moyen. Ce nouvel opus se vend comme un épisode indépendant, comme l'était le précédent, et contrairement à ce dernier qui se déroule dans un immeuble, ce qui avait été beaucoup critiqué, cette suite nous renvoie dans une maison isolée, dans la lignée des tout premiers films. Bref, un retour aux fondamentaux et aux sujets percutants pour la faire courte. Et en matière de sujets percutants, je fais une toute petite parenthèse pour vous annoncer que je viens de sortir un nouveau podcast exclusif sur mon Patreon. Pourquoi ce film a autant fait gueuler, l'abandon, les 11 derniers jours de Samuel Paty. Le lien se trouve en description et en commentaire épinglé, et je remercie les gens qui me soutiennent financièrement. À présent, voyons si l'esprit du Necronomicon est toujours là. Alice vient d'assister à l'enterrement de son époux. Pour lui rendre hommage, elle se rend au domicile reculé de sa belle famille. Et ce, le temps d'un repas commémoratif, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut mal se passer? Hélas, la soirée dérape plutôt rapidement. Les invités, un par un, se métamorphosent en monstres démoniaques. Piégée dans ce cauchemar, Alice réalise que les serments échangés avec son défunt mari ne se sont jamais vraiment rompus. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. LOL.
La mort elle-même n'y a pas mis fin.
Ok, petit avertissement avant tout, avant d'aller voir ce film, je vous préviens, on voit un chien se faire mutiler. Voilà. Faites ce que vous voulez avec cette info, moi ça m'est mal à l'aise personnellement. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas qu'il fallait pas le faire, je dis juste que c'est là. Je sais pas pourquoi, hein, les chiens, enfin je pense que c'est le fait que les chiens soient parfaitement innocents. Des créatures qui n'ont finalement aucun contrôle face à un maître qui, si du jour au lendemain se décide à le torturer, eh bien le chien ne pourra rien faire. Je pense que c'est vraiment ça qui me fait de la peine. Bref, je m'égare. Au démarrage, j'avoue que j'avais du mal à comprendre le rapport avec Evil Dead et le Necronomicon notamment, car dans cette suite, ce n'est pas du tout le même déroulé classique d'un Evil Dead. Et je dirais que c'est plutôt pour le mieux. Le déroulé va au contraire ressembler à une sorte de destination finale. C'est-à-dire que dans cet opus, les possédés n'ont pour seul but que de tuer et non de mutiler. Dans mes souvenirs, dans les Evil Dead, les possédés représentaient surtout une menace pour eux-mêmes. Mais attention, je dis pas qu'il n'y a pas de sang, de violence, de torture dans ce film, au contraire, c'est plus que jamais même. Je dis seulement que pour une fois, dans un film Evil Dead, les mutilations sont bien au service du récit. Et l'histoire, justement, eh bien c'est très simple, il n'y en a pas. Voilà. Donc si vous voulez voir un film pour une histoire, pour un scénario, alors je discerne scénario et histoire. Si, il y a évidemment un scénario, même un scénario plutôt bien écrit, par contre il n'y a pas d'histoire. Et vous savez quoi? Évidemment que ce n'est pas demain que je déplacerai au cinéma voir Evil Dead pour son histoire. Donc ce n'est évidemment pas un défaut. En réalité, ce film ne propose qu'un concept. D'ailleurs, on peut très bien raconter plein de choses avec le simple concept. On l'a vu dans les films d'horreur précédents, Backrooms, Obsession et bien d'autres. Dans ce volet, on a une sorte de caricature de la famille. Les embrouilles familiales, certains membres de la famille qui font semblant d'aller bien, d'autres qui font tout pour que ça pète, tout le monde connaît ça. Voilà, on a tous vécu ça, du moins je l'espère. Le fait de voir un membre de la famille faire exprès de mettre le doigt là où ça fait mal pour que ça pète une bonne fois pour toutes. C'est ce que le film cherche à caricaturer, avec les fameux membres qui protègent les plus toxiques et ceux qui vont simplement essayer de s'en émanciper. Et le tout sera symbolisé par l'héroïne qui représente en réalité la belle-fille. Donc on a vraiment tous les clichés de la famille, voilà, les parents, la mamie un peu sénile, condensés dans une maison reculée loin de tout. Et le tout est orchestré autour d'un propos sur la violence conjugale, les hommes sont les salauds, voilà, on ajoute un petit peu de ça, on assaisonne, et c'est parfait.
Salaud !
Donc, vous l'avez compris, il n'y a pas vraiment l'histoire, par contre il y a un concept, il y a une écriture, et notamment des personnages développés. Il ne faut pas s'attendre à grand chose de plus, mais quand même, il y a un travail, ce serait assez grossier d'ignorer. Un travail suffisant pour donner de l'intérêt au personnage et renforcer l'enjeu. Et mention spéciale à la mamie et au daron qui sont les plus gros bangers du film. Ah, les acteurs sont plutôt bien choisis, hein, ils ont une gueule. Et en tête d'affiche, comment ne pas ajouter les plus innocents, une certaine Souheila Yacoub qui donc le personnage principal, qui est suisse, hein, pas française, voilà, j'ajoute, aux côtés d'un certain Hunter Doohan, qui lui par contre était américain. Et ce que j'ai adoré dans l'écriture, ce qui prouve encore une fois que le film est plutôt bien dosé, bien rythmé, c'est que j'ai remarqué qu'il y a, dans la dernière Evil Dead, une sorte de tradition autour d'un dernier acte. Plus tu vas vers la fin, plus tu t'enfonces dans les enfers. J'avais adoré ça dans la version 2013, avec cette espèce de pluie sanguinolente. Et là, le réal s'est bien fait plaisir dans cet opus, avec mais vraiment un dernier acte où on s'engouffre dans les enfers, mais enfer avec un E majuscule. On se retrouve presque dans une sorte de remake de Terminator. Le point que j'aimerais le plus souligner dans ce film, c'est le fait qu'on ne cherche pas à tout faire comme Sam Raimi. Enfin, c'est-à-dire qu'on a Evil Dead, pour une fois, pas vraiment comique. Il garde un ton extrêmement sérieux, malgré sa violence grand-guignolesque. Et ce ton sérieux confère au film une approche très viscérale. Alors, il y a des moments un petit peu comiques, qui m'ont fait sourire, mais là où le film évanoui assumait son côté comique, surtout vers la fin, ou même le film Le Réveil de la Momie sorti bien plus tôt, en 2026, Evil Dead Burn, lui, garde le même ton sérieux du début à la fin. Et pendant un moment, j'étais en train de me demander si le film allait se donner un petit peu des airs dégoûtants. Quand je parle de dégoûtant, je parle de cette approche qu'avait donné le film justement à la momie, donc Le Réveil de la Momie, qui était dégueulasse, mais vraiment, ce rapport au corps, à la salive, les microbes, la bouche, le pipi, le caca, le vomi, surtout le vomi. Eh bien, ce Evil Dead Burn tombe également dans cette volonté d'appuyer sur le côté dégoûtant de la bouche, les microbes, la salive. Ils adorent ça, hein. Il y a une obsession dans la salive dans les films d'horreur d'aujourd'hui, et je me demande si ça n'a pas un rapport avec la période Covid qu'on a traversée il y a quelques années, où certaines personnes sont devenues un petit peu paranoïaques avec les microbes, les contacts un petit peu simples, qui dans cette puce est représenté de façon clairement horrifique. Et je vous le dis clairement, en dehors des films de Sam Raimi, c'est le Evil Dead le mieux découpé que j'ai vu. Il y a une créativité sur l'image, sur la réalisation, c'est ultra cuté par exemple. Ultra dynamique, ultra mouvementé, on change de plan presque toutes les deux secondes. Surtout lors de l'introduction qui, elle, t'envoie un maximum d'informations pour bien te faire comprendre à quelle sauce tu vas être mangé. Il y a un travail sur le montage qui ne te laisse jamais respirer, on se sent asphyxié en enfer, notamment vers la fin. En fait, c'est simple, entre le début et à la fin, le film ne te laisse aucune chance. Voilà, c'est vraiment, on te laisse jamais respirer. Si tu sors ton regard de l'écran, tu as des informations qui pourront être importantes pour la suite. Et pour vous expliquer à quel point c'est le cas, même dans les scènes de repos, le film reste agressif dans son approche. On a par exemple une introduction avec des plans qui s'enchaînent très rapidement pour nous présenter une violence à l'écran. Et dès la scène suivante, on se retrouve dans une boîte de nuit avec des lumières clignotantes agressive et des plans très serrés sur les visages, enfin il y a un côté très étouffant. Et heureusement qu'il ne faisait pas chaud, enfin il faisait même carrément froid dans ma salle, abusé comme la clim était forte. Mais s'il faisait chaud dans ma salle, je pense que j'aurais encore plus ressenti cet aspect étouffant à l'écran. On a également des effets de transition qui font que le film, une fois encore, ne s'arrête absolument jamais. C'est un petit peu comme si on assistait à une sorte de plan séquence, dans le sens où même lorsque les scènes s'enchaînent, la séquence ne prend jamais vraiment fin. On nous propose un film avec un découpage et un montage parfaitement fluide, qui va accompagner en permanence la montée en puissance de la violence. Et justement, quand on parle du loup, lors d'une scène d'action, on a un mini plan séquence en vue génitale qui va, une fois encore, appuyer sur ce côté très viscéral, très humain. Malgré les cascades complètement dingues, le film propose régulièrement des scènes d'action où t'as envie d'y croire. Et ce qui fait que lorsqu'on se retrouve face à une scène sanglante extrêmement violente, ça appuie davantage le levier choquant. Lors de l'introduction, on a également un effet de montage défragmenté qui dévoile son intrigue de façon non linéaire. Et j'ai trouvé ça vraiment intelligent et c'est dommage qu'ils ne font pas ça plus souvent dans le reste du film. On a également des petits clins d'œil à d'autres films d'horreur, un clin d'œil à Shining, pas des plus subtils. Evil Dead Burn, comme les films d'horreur récents, est accompagné d'un petit budget. Ça se voit, et c'est pour le mieux. Les créateurs se contentent du minimum syndical pour aller au bout de leur projet. Voilà, une morgue, quelques intérieurs, une maison, un jardin, on n'a pas besoin de plus. Exactement dans la même veine de ce qu'avait proposé le tout premier film Evil Dead, avec La cabane dans les bois. Un film qui avait été fait avec des cailloux et des bâtons. Et bien entendu, ce n'est pas parce que le film propose un petit budget qu'il n'est pas violent, bien au contraire, c'est ultra, méga, giga, violent, extrêmement sanglant, extrêmement gore. Des boyaux de partout, des bouts de cervelle, vous allez être servi.
Et bon appétit, bien sûr.
Et le tout, une fois encore, au service du récit, c'est ça qui m'a vraiment fait plaisir. Le tout accompagné de quelques jumpscares. Moi, forcément, je suis un habitué, ça ne fait plus grand-chose, mais pour les gens qui découvrent le genre, je pense que ça peut vous créer quelques frissons. Et ce n'est pas tout, car c'est vraiment la forme qui fait tout le travail dans ce volet. On a une photographie magnifique, mais vraiment magnifique, des couleurs désaturées, pour se détacher du rouge sanguinaire. Il y a un plan mais magnifique, on voit le daron possédé dans le jardin, avec le jardin, les couleurs qui sont presque en noir et blanc, et ses yeux rouges, oranges, lumineuses. On a presque l'impression qu'il est dans la pénombre, et que ses yeux démoniaques reflètent, sortent de l'écran presque. Avant que les événements pètent, on a une scène où une bouteille de vin éclate sur une nappe grise. On a ce gris très forcément désaturé, ce qui est logique puisque le gris n'est pas une couleur, avec la couleur de ce vin qui évoque forcément le sang, d'un rouge presque noir. Ça nous évoque une ambiance d'automne saisissante, propre à Halloween, et je souhaite vraiment ce film de rester au cinéma assez longtemps pour tenir jusqu'à l'automne prochain, ça pourrait être intéressant. J'arrive à sentir l'odeur du bois mouillé rien qu'en extérieur. Donc les décors extérieurs, aussi simples soient-ils comme des jardins, rendent extrêmement bien l'image, et c'est la même chose pour les intérieurs avec les mobiliers vieux, volontairement sales, qui évoquent presque le côté urbex que j'adore. Et comme je l'explique au début, avec la tradition du dernier acte, mais démoniaque, plus on approche de la fin, plus l'image devient rouge, orangée. On a un plan magnifique avec la fille qui court. Un plan qu'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce, il me semble, où le fond, les nuages sont complètement rouges et la silhouette en ombre chinoise est noire, mais vraiment un noir profond. Donc on a vraiment ce jeu des couleurs entre le rouge, le orange, les flammes, c'est l'enfer. Et c'est pas tout, on a également un travail au niveau du son qui lui aussi contribue à cet effet d'étouffement. On ne nous laisse jamais respirer, on ne donne jamais le droit au silence. Par exemple, il y a une scène d'enterrement, normalement l'enterrement est propice au silence, et bien même là, on a un effet de bruit de travaux qui va rendre presque la scène un peu comique, parce que ce qui devait être dramatique est désamorcé par ce son de travaux insupportable, mais qui contribue encore une fois au fait qu'on ne veut jamais nous laisser respirer. Voilà, il y a toujours du son en permanence qui intervient, allez, à la limite, quelques secondes de silence. Mais à chaque fois, le réal veut absolument nous attraper par les épaules et nous secouer pour sentir une tension augmenter jusqu'à ce que ça pète une bonne fois pour toutes. Petit côté que j'ai un peu moins apprécié, c'est le côté coco, c'est français, parce que le réal est français, donc cocorico. Mais il y a vraiment ce truc avec les musiques françaises, regardez, c'est français, lol. L'actrice qui joue une française, bon, qui n'est pas française, qui est suisse, et cette musique de fin en rap que j'ai trouvé complètement pourrie, qui casse complètement l'ambiance. J'aurais bien aimé que ça se termine de façon traditionnelle à la Evil Dead avec le gros titre qui apparaît à l'écran. Mais à part ça, le son fait un super travail dans ce sixième volet. C'était donc Evil Dead Burn et c'était génial. Voilà. Je repense encore ces commentaires que j'ai pu voir dans ma vidéo précédente consacrée au film Rise. Les commentaires du type « Bah mais t'es infernal, t'aimes rien, t'es aigri !» Bah écoutez, c'est juste que le film était moyen, voilà. Le film était pas mauvais, c'était juste moyen. Clairement pas au niveau de la patte de Sam Raimi. Il sentait vraiment l'amateurisme à plein nez. Mais force est de constater que quand c'est réussi, je le dis, le film tente des choses, peut-être même un peu trop. Tu sens le réel un peu débutant qui veut absolument montrer qu'il a des idées en tête. C'est très bien, mais il y a des moments où je me suis dit « Tiens, c'est peut-être un peu trop, là, ça fait too much. » Et je me rends compte que plus un réal commence à accumuler l'expérience, plus il commence à choisir des choses simples, mais qui parlent beaucoup plus à l'image. Je l'ai constaté avec Spielberg dans son dernier film Disclosure Day, qui, comme je l'ai expliqué, propose une réelle un peu plus académique, mais avec des images qui parlaient énormément. Donc c'est une approche différente. Là, tu ressens vraiment le côté vitaminé de la jeunesse qui veulent absolument exploiter leur créativité. Donc voilà, encore bravo à ce réal français, et je vous jure que si la critique est positive, c'est pas pour ça, hein. J'en ai rien à carrer de savoir qu'il est français. Mais surtout, c'est la preuve que si tu souhaites être créatif en France, la meilleure solution qui s'offre à toi, c'est de quitter la France. Voilà, de faire tes films ailleurs. Sujet à part, j'aimerais beaucoup qu'on nous refasse un jour un Evil Dead full humoristique, un petit peu comme le 3. Voilà, qui est un nanar complètement assumé. Le genre sérieux et le genre humoristique sont deux types que j'aime beaucoup. Pour l'heure, un septième volet intitulé Evil Dead Rise est déjà prévu pour 2028. La franchise est donc en train de se transformer en Saw 2.0, mais à coup d'un film tous les 2 ans. Il faut dire que le concept des Evil Dead coûte si peu cher en production qu'il devient une véritable machine à fric. D'ailleurs, c'est le cas avec tous les types de films d'horreur possibles. Produire un film d'horreur, en général, c'est pas très cher. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Bref, évidemment, âme sensible, s'abstenir si vous comptez aller voir ce film. Mais pour ceux qui ont le cœur bien solide, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis et m'en faire part dans les commentaires, comme à chaque fois, j'y prêterai attention. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas tous les liens en description ainsi qu'en commentaire épinglé, notamment pour me retrouver sur Patreon et écouter mon nouveau podcast consacré aux films sur Samuel Paty. Pourquoi ce film a autant fait gueuler? Autrement, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, likez pour le petit boost. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.